voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bernard Kouchner. Ce soir, l'étrangeté.
Après l'ambiance bouillonnante qui a nimbé nos premiers entretiens, Bernard Kouchner, nous faisons à présent un pas de côté pour évoquer, pour aborder votre étrangeté. On dit que vous chantez tout Ferré, Léo Ferré quasiment par cœur, et il y a dans une de ses chansons cette phrase qui m'a fait penser à vous. Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. En quoi est-ce que, pour vous, ça peut résonner en vous ?
Franchement, je suis peut-être d'un autre quartier, mais pas d'une autre solitude, parce que, malgré un petit rôle que j'ai pu jouer, je vous ai déjà dit que l'aventure fut collective. Il fallait, pour faire Médecins sans frontières, Médecins du monde, des opérations humanitaires, certaines efficaces et d'autres évidemment ratées. Et il fallait être plusieurs, pas pour les rater, surtout pour les entreprendre positivement. Mais enfin voilà, il y avait un groupe d'amis avec moi, Récamier, Fio, Hébrard, plein de gens. J'arrêterai pas, parce qu'à un moment donné, nous étions très nombreux. Et puis ils sont encore plus nombreux maintenant, c'est une réussite incroyable, Médecins sans frontières. C'est le premier groupe et le plus riche groupe médical du monde, en matière d'urgence, bien sûr.
Mais votre étrangeté, pour moi, ça tient aussi à votre histoire familiale. Bernard Kouchner, vous dites que votre père, Georges, il lui arrivait de signer certains de ses articles dans des revues médicales, Kouchner avec un C.
L'antisémitisme est-il étrange ? Oui, non. Enfin, il est fréquent et il revient. Et donc, à un moment donné, il a signé C-O-U-C-H-N-E-R au lieu de K-O-U-C-H-N-E-R, qui faisait plus breton, parce que un de mes oncles était d'ailleurs installé en Bretagne, et tout le monde le prenait pour un breton. Écoutez, oui, il a signé C-O-U-C-H-N-E-R, moi pas, mais des journaux, il en a fait beaucoup, et ce qui était admirable chez mon père, c'est non seulement on comprenait ce qu'il écrivait, mais lui comprenait ce qui, à l'époque, était des sujets scientifiques très compliqués, peu faciles d'accès. Et il avait une revue qui s'appelait la Revue des sciences médicales, que je trouvais absolument admirable, qu'il faisait tout seul, en réalité. Pas toujours, il y avait d'autres articles que les siens, mais enfin, en gros, il faisait ça avec... Il allait s'enfermer à la bibliothèque... à Pasteur, à la bibliothèque de Pasteur, et il avait là une documentation formidable. J'admirais beaucoup ça.
Alors, il y a de nombreux médecins dans votre famille, avant vous, Bernard Kouchner, mais Kouchner, votre nom, étymologiquement, enfin, si on le traduit, je crois que c'est le fourreur. Et je me suis demandé, puisque j'ai envie de vous parler d'étrangeté aujourd'hui...
Oui, c'est ça, vous avez envie de me faire étrange, mon cher, c'est tout.
Est-ce mais que vous vous sentez un animal à fourrure ?
Moi, je croyais que ça voulait dire cuisinier, Kouchner. Puis d'alors, il y a un Kouchner en ce moment... qui est le neveu de Trump, avec lequel je n'ai aucun rapport, je vous prie de le noter.
Non, cette étrangeté, en particulier quand elle correspond à une identité juive, elle peut vous condamner. C'est ce qui est arrivé à vos grands-parents, qui ont été déportés à Auschwitz le 30 juin 1944. Quelle place leur absence occupe-t-elle dans votre récit personnel ?
Dans mon récit personnel, une place énorme. Dans le récit familial, hélas, pas une très grande place, parce que, sans doute, savez-vous, qu'on a peu parlé des morts, que ceux qui sont revenus des camps d'extermination n'ont pas été interrogés, on les trouvait eux-mêmes étranges. Comment ? C'était pas parce que vous faites de résistance, c'était pas parce que vous étiez politique, c'était pas... Non, c'était parce qu'ils étaient juifs qu'ils étaient tués. Et les survivants ne s'en cachaient pas, mais ça gênait les autres d'en parler. Et donc il n'y a pas eu de dialogue. Et dans ma famille, et dans d'autres familles, dans la mienne, on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai découvert ça très tard. C'est d'ailleurs ma sœur Colette qui m'en a parlé. Je ne savais pas que j'étais juif. Je ne savais pas ce que c'était qu'un juif, en gros. Et donc, solitude, oui. Solitude de tout cela qui... Il y a eu cette phrase formidable dans un film de Marek Alter. Les gens, vous le savez, étaient soutenus bien tardivement, puisque la Croix-Rouge n'a pas dénoncé les camps d'extermination. Et alors, comment avez-vous fait? Ben, on a fait une longue marche, et puis les gens tombaient, puis ils mouraient, ça c'est ce qu'a fait Simone Veil. Ceux qui mouraient pas, à un moment donné, on les accueillait après les derniers bombardements, les derniers massacres, etc. Et alors, c'était la Croix-Rouge. Alors, on demande, dans le film de Marek Alter, alors qu'est-ce que vous avez fait? Ben, la Croix-Rouge s'est occupée de moi. Ils ont essayé de me faire manger, je pouvais pas manger, parce que l'estomac était fermé, si j'ose dire. Et alors, la Croix-Rouge m'a mis dans un lit. Et après, après quelques semaines, la Croix-Rouge m'a emmené dans un train. Et on m'a ramené à Paris. Et là, à Paris, la Croix-Rouge m'a accueilli. Alors, c'était l'hôtel du Tessia. Et où, après, je suis sorti dans la rue. J'ai pris le métro et je suis rentré chez moi. Voilà comment se résumait le massacre le plus effroyable des temps. Tellement les gens n'en voulaient pas parler, ne voulaient pas l'entendre, et que finalement, les survivants n'avaient pas envie d'en parler.
Et le fait que vous soyez retrouvé engagé, médecin, travaillant pour la Croix-Rouge, d'ailleurs je crois embringué dans cette aventure par Marek Alter.
Marek Alter, c'est parce que je dînais chez lui, mais enfin, et donc on a reçu le téléphone chez lui. Mais enfin, mon ami Marek Alter continue de faire un truc exceptionnel. Par exemple, il y a quelques semaines, pour le jour anniversaire de la Shoah, à la Sorbonne, il a fait jouer tous les musiciens que la Croix-Rouge avait, l'orchestre même, que la Croix-Rouge avait entendu à Theresienstadt, et ils avaient dit c'est pas un camp où on tue les gens, ont été tous exterminés à Auschwitz. Il n'y en a pas un qui a survécu, et il a fait jouer, par l'orchestre de la garde républicaine, un très bon chef, dans la grande salle de la Sorbonne, la musique des musiciens juifs disparus. Splendide. Oui, alors la Croix-Rouge, la Croix-Rouge, j'ai rien contre eux. Enfin oui, j'ai beaucoup de choses contre eux, mais pas les gens qui, au Biafra par exemple, puisque je les ai rencontrés là, faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Et d'ailleurs, il y avait des gens, des médecins, et une équipe de la Croix-Rouge, et du côté nigérian et du côté biafrais, c'était déjà formidable. Mais ils ne voulaient pas qu'on témoigne, je vous l'ai dit. On signait un papier, une espèce de serment de non-témoignage. Eh bien, je pense que ça, c'était une très grande faute. Et je ne voulais pas être avec mes amis, nous ne voulions pas être le témoin muet des massacres. Nous pensions que la parole protégeait. Et la parole protège, même encore maintenant. S'il y avait eu des gens, et il y en a eu très peu, qui auraient travaillé en Syrie, il y aurait eu des manifestations, il y aurait eu une protestation internationale. Il n'y en a pas eu. Oui, la parole protège, peut-être.
Alors, votre étrangeté, Bernard Kouchner, c'est non seulement d'être ce médecin qui a pris la parole et qui continue à parler, mais c'est aussi dans le fait que vous êtes écrivain, que vous êtes auteur. Il y a, dans votre parcours, l'aventure d'Actuel, le magazine Actuel. Et puis, il y a un Bernard Kouchner, scénariste. Scénariste de la série Médecins de nuit entre 1976 et le milieu des années 80, mais scénariste aussi de Hôtel de police, de l'opération Ypsilon,
mais non.
Réalisé par Peter Kassovitz.
Oui, il y en a d'autres. Je vous les citerai pas parce que je n'ai pas de vanité d'auteur. D'abord, je signais Griden.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que je voulais pas qu'on... C'était difficile d'expliquer pourquoi je faisais des scénarios d'un côté, de l'autre, je faisais de l'humanitaire. Il fallait vivre, mon fils. L'humanitaire, jamais un seul sou. Nous n'avons rien gagné pendant les 25 ans d'humanitaire, jamais payé. Si, au Biafra, au début, on avait ce qu'on appelait un per diem, c'était quelques sous pour rien dépenser, puisqu'au Biafra, il n'y avait rien à acheter. La Croix-Rouge, en effet, avait un per diem, donc en fonction des jours. Mais non, sinon... Oui, Hôtel de police fut une des premières séries, sinon la première série, parce qu'il y en a eu, je sais pas, 30, 40... heure, 52 minutes. Et donc, on a pensé parler d'urgence, oui. Et c'était à chaque fois intéressant de décrire un milieu social différent dans lequel les médecins nuisent. Enfin, bravo. Grande aventure, mais j'en ai fait plein d'autres.
Il y a le plaisir de l'écriture, il y a aussi voilà, témoigner.
Bien sûr.
Il y a médecin en récit, il y a le plaisir
non,
de.
Non, enfin, ça dépend, c'est l'attention
dramatique.
Un chef-d'œuvre. Mais il y en a quelques-uns que j'ai revus avec bonheur ces temps-ci.
Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à écrire? Parce qu'on a le sentiment que vous évoquiez votre père
d'abord,
qui écrivait dans ses revues médicales.
Des livres. Et puis, j'ai rencontré Claude Barma, qui est à France 2. France 2, ça s'appelait comment à l'époque?
Antenne 2.
Antenne 2. Et à Antenne 2, et je lui ai proposé cette idée, où il, enfin, à deux, nous sommes arrivés à cette idée des médecins de l'urgence, qui commençaient à peine dans Paris. Non, c'était sympathique, mais arrêtez de me faire parler comme un auteur. En tout cas, j'ai eu le bonheur, je voulais réécrire un truc comme ça. Et une de mes amies, Laurence Haï, m'a demandé à Clounet, que j'avais rencontré plusieurs fois, que j'ai rencontré dans une mission, Georges Clounet, au Sud-Soudan, qui n'était pas facile, ni pour lui, ni pour moi. Et il a réfléchi beaucoup. Je voulais en faire le héros de cette traversée des siècles politiques, pas seulement du malheur, pas seulement des massacres, pas seulement du sang. Il a réfléchi beaucoup, je trouvais qu'il se décidait pas vite. Et finalement, j'ai découvert que c'était lui, dans la première série Urgence américaine, qui était le médecin, ce que je ne savais pas, ou je l'avais pas reconnu, ou j'en sais rien. Donc il m'a dit, tu comprends, j'ai commencé comme ça, si je finis comme ça, vraiment, on va m'enterrer, je peux pas faire. Et donc le film ne s'est pas fait. Parce qu'à travers toutes ces opérations humanitaires, dont je vous ai dit qu'elles étaient forcément toutes politiques, on pouvait tracer, peut-être quelqu'un le fera-t-il, un portrait du siècle assez significatif et forcément un peu pessimiste. Mais ça ne s'est pas fait.
Mais si Georges Clounet a commencé à l'écran comme médecin et n'a pas l'intention de rester médecin toute sa vie d'acteur, vous, Bernard Kouchner, il y a votre ami Michel-Antoine Burnier qui a pu dire que à 15 ans, à 17 ans, vous vouliez être réalisateur de cinéma.
Mais c'est vrai, parce
pour réaliser quel genre de film, alors?
Quel genre de film, comme j'en ai pas fait. J'en ai fait parce que j'en ai écrit. Mais quel genre de film? Moi, j'étais au lycée Voltaire à l'époque, et la classe préparatoire de ce qui s'appelle la FEMIS maintenant, qui s'appelait les Hautes Études Cinématographiques. IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques. Il y avait un prof qui s'appelait Henri Hagel, qui était prof de philo, je crois, et qui nous préparait à l'IDEC, et donc à un moment donné, j'ai voulu être metteur en scène, voilà. Enfin, metteur en scène, réalisateur, je sais pas, parce que l'IDEC, comme maintenant la FEMIS, forme pour tous les métiers du cinéma. Donc je suis un amoureux du cinéma, pas déçu, puisque j'ai choisi d'être médecin, mais quand même, oui, je voulais à un moment donné, c'est vrai.
Et vous aviez quel film en tête? C'était des westerns? C'était des
mais
romances?
Mais attendez, j'en ai pas fait, je connais par cœur les
mais
westerns.
Mais qu'est-ce qui aiguillonnait votre désir de cinéma?
C'était la gloire, monsieur. Non, mais j'en sais rien, j'aimais le cinéma. C'est pas... Et là, il y avait un cinéma français exceptionnel à cette époque. Maintenant, il y a un cinéma français qui marche. C'est déjà pas mal, avec un système de financement qui est tout à fait exceptionnel et qu'on nous envie. Mais il y a beaucoup de films, mais pas beaucoup qui comptent. C'est ça qu'il faudrait faire avec le cinéma français. À l'époque, vous comprenez, après la guerre, il y avait Renoir, puis il y a eu l'âge de Nouvelle Vague. Tout ça était très fort.
Alors je vous titille sur votre étrangeté aujourd'hui. Je dirais ce couple de stars avec Christine Ockrent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que d'aucuns ont perçu comme quelque chose d'étrange, de fascinant?
Ils étaient jaloux, ils avaient raison. Ils avaient raison, elle est belle. Que je vous dise, oui, Christine Ockrent et moi, oui, nous formions un couple, nous formons toujours.
Et vous avez pu être étonné par l'importance qu'a pris justement l'image médiatique de votre couple avec la reine Christine?
J'étais très surpris et fier d'être le compagnon de la reine Christine. Mais j'ai pas été étonné, voulez-vous que je sois étonné? Vous savez, Médecins sans frontières, c'est le prix Nobel. Il n'y en a pas beaucoup en France. Et si vous voulez bien lire l'énoncé du prix Nobel, vous n'y verrez qu'un seul nom.
Mais c'est étrange qu'il soit occulté, ce nom qui est le vôtre, Bernard Kouchner, quand on parle du prix Nobel.
La jalousie française est quelque chose qui ne me surprend plus. Vous avez le droit d'être un grand bonhomme si vous êtes d'une grande famille. On ne vous reprochera pas votre argent si c'est d'une grande famille. Mais ces succès comme ça, ou alors le football peut-être, notre grande mondialisation du football, là vous avez le droit d'être payé honteusement. Mais le reste, on n'aime pas le succès en France, détestable. C'est le contraire des pays que l'on appelle anglo-saxons. En France, on n'a pas le droit au succès.
Je vous taquine.
On vous le reproche, quoi.
Depuis tout à l'heure, je vous travaille sur cette question de des images que vous auriez pu produire comme cinéaste, des images que qu'on a fabriquées à partir de votre histoire d'amour avec Christine Ockrent. Et il y a cette image qui compte énormément, à la fois parce qu'elle a été vue et revue, parce qu'elle a été fantasmée, mais aussi parce qu'elle implique, c'est vous avec un sac de riz sur l'épaule, en 1992, sur une plage de Somalie, au moment de la grande opération du riz pour la Somalie. Est-ce que vous nous diriez un mot de cette image et de ce qu'il y a derrière pour vous, de ce qui vous reste de ce moment ?
C'est une des opérations dont je suis le plus fier, parce que c'est pas une opération seulement Médecins sans frontières ou Médecins du monde, je me souviens plus. C'est une opération qui a mis en mouvement, comment dirais-je, pas charitable, de solidarité, tous les enfants de France. C'est-à-dire que avec, à l'époque c'était Jacques Lang, ministre de la Culture, Frédéric Bredin, ministre des Sports, bref, trois ministères. C'est-à-dire qu'on a demandé aux enfants de France d'apporter à l'école ce jour-là. Il y avait donc l'éducation nationale.
Moi, j'en ai le souvenir de cette génération qui a apporté
qui a apporté 200 grammes de riz
à l'école.
Ils étaient tous très fiers, ils étaient tous très contents. Il y avait un petit sac qu'on mettait dans un grand sac, car il y a eu la poste. Et c'était une opération française merveilleuse. Et on en a apporté 12 000 tonnes dans un pays où il y avait 1000 enfants qui mouraient par jour. 1000 enfants, chiffre de l'UNICEF. Malheureusement, il y a eu à la fois... Cette opération s'est merveilleusement passée. Trois énormes bateaux sont partis à intervalles. Mais il y a eu une tempête en mer Rouge qui les a retardés parce qu'il y avait une tempête qui les empêchait d'arriver. Et puis surtout, il y a eu des attaques sur le port en Somalie qui empêchaient le port de Monrovia de fonctionner. Le port de Monrovia a été fermé. Et au bout de 2 mois, rien n'était arrivé, les enfants continuaient de mourir. Et on me protestait à l'assemblée où on me disait, salaud, qu'est-ce que t'as fait du riz, t'as mis l'argent dans ta poche, ou alors pourquoi t'as pas mis du blé, me disait un type, je ne citerai pas le nom tellement il était con, le riz, mais le riz ça se met dans l'eau, c'est plus facile, il faut un moulin pour le blé, puis on avait, enfin bref, tout le monde protestait, honte à nous. Or, nous avions fait arriver ce bateau avec Patrice Franceschi, je m'en souviens, qui nous attendait à Monrovia. On a fait arriver le bateau sur la plage. Alors, il fallait aller chercher avec des barges qu'on avait improvisées. C'était en pleine guerre. Le riz, chargé sur des barges, arrivant sur la plage et mettait dans des camions, etc. Personne ne pouvait croire ça. Et donc, j'ai pris ce sac de riz pour montrer qu'il était arrivé, pour dire aux enfants de France, on n'a pas volé votre riz. Un certain nombre de salopards, immensément nombreux, surtout en France. En France, on m'a critiqué. J'ai pas très bien compris, franchement, cette affaire. L'extrême droite a joué un rôle important dans l'opprobre. Mais pour le reste, franchement, allez, donner à manger à des enfants qui mouraient de faim, on a dit, il veut se faire voir. Il y a un truc caricatural. Pour le départ, j'avais la couverture du Point, je me souviens plus du truc, mais c'était sympathique pour moi, quoi. C'était l'homme le plus populaire de France. Quand ce sac de riz a été porté sur mon épaule, il y a eu la même couverture du Point qui disait « Bernard Kouchner en fait-il trop ?» Quel bande de cons, mais franchement. Bon, enfin, venez en Somalie, mais pas seulement en Somalie, ils s'en souviennent. Il y a dans Paris les gens qui m'arrêtent. « Ah, vous avez-vous que... » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous ai parlé de jalousie. Bah, je sais pas. Là, il y avait. Fallait pas qu'on me voie, quoi. Je sais pas. C'est pas ça qui compte. C'est l'opération nationale. Les enfants de France, ça, ils s'en souviennent. Vous vous en souvenez. Vous n'avez pas eu honte d'apporter le riz. Eh ben voilà pourquoi j'ai porté le sac.
Et en 1992, vous étiez non seulement ce French doctor, ce militant de l'action humanitaire, mais vous étiez, vous le rappeliez, aussi au gouvernement. Vous êtes, d'une façon étrange, une fois encore, entré en politique, vous avez pris des responsabilités politiques, Bernard Kouchner, et vous avez pu dire que vous étiez un huron en politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression?
Oui, le Huron, c'est le mec qui enfin, c'est un homme qui, enfin, c'est un homme différent. Au milieu de la foule, il y a le Huron. Mais non, ce que j'ai fait en 92, qu'est-ce que j'ai fait en 92?
Vous étiez
Rappelez-moi.
ce ministre de la
De qui?
Santé de Pierre Bérégovoy?
Ben, excellent. J'aimais beaucoup Pierre Bérégovoy. J'ai été ministre tout, d'abord de Michel Rocard, mon grand ami et mon maître. Mais donc, Michel Rocard n'allait pas jusqu'à dire la gauche et la droite, mais il le faisait travailler ensemble. N'y avait pas de majorité pour Michel Rocard. À chaque fois, il fallait trouver des gens qui approuvaient un projet, une idée, qui étaient d'accord avec une proposition. Ça, c'était la gauche et la droite ensemble. Et il le faisait, mais il ne le terrorisait pas, parce que quand même, c'était un socialiste traditionnel de ce point de vue, quoi. Il y a le parti qu'on comptait pour lui. Et puis après, il y a eu Edith Cresson, j'étais aussi son ministre, parce que et Michel Rocard a été prié de rendre son portefeuille de Premier ministre alors qu'il avait encore une majorité pour lui. Jamais un Premier ministre n'a eu si longtemps une majorité de Français derrière lui. Et puis Pierre Bérégovoy, qui hélas a clôturé toute la période de la gauche au pouvoir. Mitterrand est resté président. Mais les élections ont été perdues. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a le Huron Emmanuel Macron qui fait exactement ce que je disais, ce que j'avais théorisé, ce que j'ai fait dans plusieurs livres. C'est-à-dire qu'il dit la gauche et la droite, c'est pas la même chose. La preuve, c'est qu'il les différencie. Mais la gauche et la droite peuvent travailler ensemble pour le bien du pays et non pas pour le bien de leur parti et prendre simplement le pouvoir. Moi, j'ai dit ça. Beaucoup trop tôt, personne n'y croyait. Et d'un seul coup, brutalement, les Français ont compris. Ils ont à la fois explosé les partis politiques, la gauche et la droite, et élu, ils ont élu Emmanuel Macron qui dit ça et qui fait ça. Voilà, le Huron, c'est lui maintenant. Et pour le moment, ça marche pas mal. On peut protester, on peut discuter, j'espère qu'on le fera. Mais en gros, maintenant, en 2020 presque, la différence entre la gauche et la droite ne se fait pas sur les mêmes critères. Et dans le monde entier, c'est comme ça. Et le monde s'est transformé. Et les migrants sont là, que nous n'accueillons pas assez, que nous accueillons mal, que nous repoussons. Et il y aura toute une conception nouvelle de la politique qui peut tenir compte, bien sûr, d'un certain nombre d'idées sociales de la gauche. Mais il faut les réaliser, les idées sociales, pas seulement les proposer. Or, il y a là un partage des responsabilités et un partage des décisions qui doit appartenir pour le bien d'un pays et pour le bien de l'Europe plus qu'un pays. Quelle est la grande idée? Gauche-droite. C'est l'Europe. Voyons. C'est de mettre tous ces pays ensemble parce que sinon, il est impossible de parler avec la Chine et encore avec M. Trump. Je parle de M. Trump, mais les États-Unis. Et avec l'Afrique qui vient sans avoir ces 550 millions d'Européens les plus riches du monde, les plus riches du monde, le marché le plus riche. Donc c'était un peu tôt, voilà, c'était un peu tôt.
Il était un peu tôt encore quand vous devenez ministre d'ouverture à l'invitation de Nicolas Sarkozy
C'est
en
la même chose,
2007. Vous
oui.
êtes ministre des Affaires étrangères et européennes,
Oui,
donc sur ce
oui.
cheval de bataille commun à la
Oui.
gauche et à la droite. Vous avez le
Voilà.
sentiment à ce moment-là d'être précurseur ou vous entendez ceux qui vous reprochent une alliance contre nature dans
Vous avez vu ce qu'ils sont
un gouvernement de
devenus? Vous avez
droite?
vu ce qu'ils sont devenus, ceux qui me reprochaient ça? Ils ont explosé en vol, même à l'atterrissage, parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. La gauche et la droite ont explosé. Parce que justement, ils n'ont pas compris ça. D'abord, j'étais pas tout seul. Il y avait Jean-Pierre Jouyet. Il y avait enfin, bon, et nous étions au moins autant socialistes qu'eux. Le sectarisme ne paie plus. Croire qu'on a raison parce qu'on est français, qu'on a fait la révolution en 89, comme croire qu'on a raison parce qu'on a une étiquette qui est pas la même que les autres, c'est fini. C'est ça la transformation, la mondialisation. J'ai dit que le football était ça le résultat positif. Mais quand même, il y en a potentiellement, dans l'espoir qu'on y met, d'autres. Il y a la lutte contre la pauvreté, il y a le fait que on ne s'intéresse pas à la démographie, elle va nous manger, et puis il y a l'environnement, la planète qui est en train de s'écrouler. Tout ça, c'est ni gauche ni droite. Et ça, je crois qu'Emmanuel Macron l'a compris. Et c'était une autre démarche que, avec Sarkozy, oui, il y avait, mais on ne nous est toujours pas ça, il y avait 7 ministres de gauche. Bon, à la fin, bon, malheureusement, au bout de 3 ans, on s'est rendu compte que ça marchait pas. J'accuse plus l'entourage de Sarkozy, d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy lui-même. L'idée était bonne. Et d'ailleurs, c'était celle de Mitterrand. Vous savez, j'ai mon premier gouvernement, avec Michel Rocard numéro 1, et François Mitterrand, il y avait la moitié de ces ministres qui étaient du centre et de droite. J'étais habitué à ça, ça c'était François Mitterrand.
C'est qu'il y a la dimension politique de ce combat qui réunirait sur un certain nombre de causes, d'enjeux, la gauche et la droite, Bernard Kouchner, mais il y a aussi votre cas personnel.
Il va encore me trouver.
En 1963, vous signez une tribune, vous êtes un moderne Rastignac. Je crois que c'est dans Clarté,
j'avais 20
le journal
ans.
De l'UEC, de l'Union des étudiants communistes.
Exact.
Hein, je suis communiste et Rastignac. Paradoxe, détrompez-vous, écrivez-vous. Le mélange n'est pas détonnant, il est même étonnamment efficace. Vous riez, je vous attends. Vous êtes toujours resté ce moderne Rastignac ?
Peut-être, mais en tout cas les communistes, on les attend plus. Là, je me suis vraiment beaucoup trompé. Mais vous savez, c'était 63, oui, oh là là, on est compte. Bon, écoute. C'est vrai que l'importance du Parti communiste a changé. Mais pour les jeunes gens que nous étions et qui avaient l'envie de changer le monde et de faire un monde plus doux pour les démunis, plus doux pour les plus pauvres, plus doux pour le tiers-monde, à l'époque on disait tiers-monde, il y avait les communistes, c'est vrai que ça nous a marqué beaucoup. Enfin, les communistes militants, je n'ai jamais eu rien contre eux. C'est eux qui se sont fait balader ou tromper beaucoup plus.
Mais vous ne me répondez pas sur Rastignac ?
Oh ben Rastignac, je veux bien, ce n'est pas gênant. C'est une belle référence littéraire, parfait. Rastignac, quoi, Rastignac, c'est le mec qui arrive de province et qui réussit. Eh ben, est-ce que tout le monde souhaite, non ?
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bernard Kouchner. À voix nue. Réalisation Doria Zénine. Prise de son Fabien Gosset. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.